Interview minute. Raphaël se fait interviewer par Boris et Nasser dans le rôle de Voltaire. Donc bonjour Monsieur Walter, comme nous vous l'avons dit, nous allons vous poser quelques questions.
Je répondrai avec plaisir, mais j'ai une question. Vous avez dit que vous étiez journaliste, c'est un nouveau nom pour les philosophes politiciens.
Disons que je suis chargé d'informer le peuple des événements, d'interroger des personnes importantes.
Vous êtes donc au service de la cour.
Nous sommes en République démocratique, la cour n'existe plus, il y a eu la révolution.
La révolution? Ainsi, je n'aurais pas défendu mes idées en vain.
Bon, pouvez-vous répondre à nos questions?
Quelle est votre date de naissance? Pourquoi avoir pris le pseudonyme de Voltaire?
Mon nom de naissance est Monsieur Harvey. J'ai choisi de prendre un pseudonyme pour rompre avec mon passé, ma famille. J'ai fait mes débuts dans le théâtre. Voltaire est le nom d'un personnage de théâtre. De plus, Voltaire rappelle le nom de ma ville de naissance, Hervaux, et est proche de mon nom de naissance. Le chevalier de Rouen Chabot s'est d'ailleurs moqué de ce choix de pseudonyme.
Quand est née votre vocation d'être écrivain ou philosophe?
J'ai été au collège des Jésuites, Louis le Grand. J'étais un excellent élève et me distinguais surtout dans la composition de vers. J'adorais déjà la littérature. Cette vocation ne m'a pas quitté. Il y a 17 ans, je déclarais à mon père que je voulais être un homme de lettres. Mon premier succès littéraire, c'est la tragédie d'Oedipe. J'appréciais aussi la réalisation de poèmes épiques. Lorsque le chevalier Rouen Chabot s'est moqué de moi, je me suis querellé avec lui. Quelques jours plus tard, je me suis fait frapper dans la rue par les laquais du chevalier. J'ai voulu obtenir réparation, mais personne n'a pris mon parti. L'influence des Rouens me conduit à la Bastille du 7 avril. Je fus libéré qu'à la condition que je m'exile. Je suis donc allé en Angleterre, où j'ai découvert un autre système politique. Par comparaison, je me suis mis à critiquer la France et à remettre en question son système.
Une certaine Émilie du Châtelet aurait joué un rôle dans votre carrière de philosophe. Qu'en est-il exactement ?
Émilie du Châtelet a le même enthousiasme que moi pour l'étude et grâce à elle, j'ai découvert ma passion pour les sciences. J'ai appris d'elle à penser. Elle m'a aussi enseigné la diplomatie. Émilie est une véritable femme de science. Les enduits de ses connaissances en mathématiques et en physique en fait une exception dans le siècle. C'est aussi une femme du monde qui mène une vie mondaine, assez frénétique en dehors de ses études. C'est pour cela que je l'ai aimée. Elle m'a soutenue.
Vous êtes un fervent déiste, mais vous apparaissez comme l'un des plus grands ennemis de l'Église, que vous appelez l'infâme. Pourquoi ?
En 1730, Adrienne Lecouvreur, une actrice qui a joué dans mes pièces et avec laquelle j'ai eu une liaison, meurt. Les comédiens sont alors frappés d'excommunication et le prêtre refuse la sépulture. Cet événement m'a beaucoup marqué. De plus, le juge l'Église fanatique et lutte contre ce fanatisme religieux.
Est-ce pour cela que vous avez pris la défense de Jean Calas ?
En effet, c'est l'une des raisons de ma prise de parti. Je suis persuadé de l'innocence de Calas. Condamné sans preuve, son fils, dont il est accusé du meurtre, voulait se convertir au catholicisme. Comme Calas était protestant, il a immédiatement accusé à tort. Convaincu qu'il s'agit d'une tragédie de l'intolérance, que les juges ont été influencés par le fanatisme ambiant, j'ai tout fait pour sa réhabilitation. C'est de là que vient le nom d'infâme, que j'ai donné à l'Église. Mon traité sur la tolérance la défend et lutte contre le fanatisme.
Comment vous entendiez-vous avec Rousseau ?
Tout nous oppose. Pourtant, pendant longtemps, je me suis bien entendu avec celui-ci, jusqu'en 1760. Lorsque Rousseau, qui m'admirait, m'envoie son discours sur l'inégalité, où il critique la civilisation, le luxe, l'inégalité sociale et la propriété, je n'ai pas plus compris celui-ci. Rousseau défendait l'optimisme. Je lui ai envoyé mon poème sur le désastre de Lisbonne et je me suis moqué ouvertement de son optimisme, dans Candide. Dans ses confessions, il me déclare ouvertement la guerre. Je ne me gêne pas alors pour montrer tous les défauts de cet homme, qui faisait porter et déposer ses enfants aux enfants trouvés. De plus, ce n'est pas un écrivain engagé, alors que pour moi, l'engagement est l'un des principaux rôles de l'écrivain.
Ainsi, dans Candide, vous critiquez l'optimisme.
En effet, depuis longtemps déjà, j'étais opposé aux idées du philosophe Leibniz au sujet de Dieu, du principe de raison suffisante et de son idée d'harmonie préétablie. L'optimiste est un encouragement au fatalisme. Émilie du Châtelet est une leibnizienne convaincue. Elle a renoncé au matérialisme newtonien pour lui préférer le déterminisme optimiste de Leibniz. Malgré que notre alliance ait été conservée, je n'ai pu admettre cela. Dans Candide, je m'attaque ouvertement à celui-ci et fais de Pangloss un défenseur ridicule de cette philosophie. Chacune des aventures du héros tend à prouver qu'on a tort de croire que notre monde est le meilleur des mondes possibles.
Comment conseillerez-vous d'aborder l'œuvre aux nouvelles générations ?
Pour comprendre mon œuvre, il faut comprendre ma vision de l'optimisme pour mieux saisir l'ironie de Candide. Il faut être ouvert à un nouveau genre, qui est le conte philosophique. Ainsi, vous aborderez l'œuvre avec un regard déjà averti. Il ne faut pas oublier que le langage a évolué et que certains mots peuvent être nouveaux, quoi qu'ils soient anciens.
Pourquoi avez-vous voulu rentrer à l'Académie française ?
Je voulais me protéger de mes adversaires et y faire rentrer mes amis. C'était aussi pour montrer que j'étais reconnu. Ceci donnait un certain prestige. Je n'ai pas fait taire les médisances, mais entrer à l'Académie française a été un véritable triomphe dont je suis fier.
Si vous deviez faire un bilan de votre carrière, que diriez-vous ?
J'ai appris qu'il y a eu la Révolution, et je considère cet événement comme l'aboutissement de mes idées. Leur triomphe, toujours contesté, j'ai eu beaucoup d'ennemis. Lorsqu'on est engagé, on prend des risques. Je ne regrette rien. Jusque sur mon lit de mort, je n'ai pas renoncé à mes opinions. Ma vie est dans la littérature, j'ai vécu pour mes idées, et celles-ci sont toujours existantes. Dans chaque œuvre qui est lue, je revis ma carrière. La carrière de l'écrivain engagé ne s'arrête jamais.
Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Nous allons vous reconduire au laboratoire pour vous rendre votre repos bien mérité après une vie mouvementée.